7h.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.
Écoute de Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Nemo en piste pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La signature est prévue ce samedi au Paraguay.
Après 25 ans d'âpres négociations, le traité de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne prend encore un peu plus forme. Il concernera 700 millions de personnes. Certains s'en frottent les mains, d'autres beaucoup moins. Le point sur les perdants et les gagnants de cette entente. Nous sommes au Brésil également, où l'accord risque de faire perdre du terrain à la forêt vierge. Le témoignage à suivre d'une Iranienne exilée en Europe. Elle suit évidemment, comme elle le peut, la contestation dans son pays natal depuis bientôt 3 semaines. Son vœu le plus cher, voir le pouvoir tomber. Mais la prudence reste de mise. 930 000 candidats à la migration sont passés par la Libye en 2025, soit pour y passer, soit pour y rester, les chiffres de l'OIM. Et puis le comité palestinien de gouvernance qui tenait sa première réunion au Caire. Nous sommes en Égypte dans ce journal.
700 millions de consommateurs pour 30% du PIB mondial. On parle là de la plus vaste zone de libre-échange de la planète.
Elle prend forme en tout cas après un quart de siècle de discussions. Nouvelle étape ce samedi à Asunción au Paraguay, où les pays du Mercosur doivent signer le traité avec l'Union européenne. En escale au Brésil hier, Ursula von der Leyen assure qu'il représente ce traité le pouvoir du partenariat et de l'ouverture. Une vraie prospérité se crée, ajoute la présidente de la Commission européenne, quand son hôte Lula parle, lui, d'un accord très bon pour le multilatéralisme, accord particulièrement débattu par les dirigeants, par les professionnels du monde agricole, notamment, on y reviendra. D'ailleurs, au Brésil, le texte n'est pas forcément vu d'un bon œil par tous, notamment par ceux qui redoutent l'expansion des méga-fermes. Reportage Jeanne Richard.
Au cœur de l'Amazonie brésilienne, la ville d'Abaetetuba n'est plus entourée de forêts vierges depuis longtemps. Plusieurs grosses entreprises agricoles ont rasé des milliers d'hectares pour produire du soja, de l'huile de palme et surtout du bœuf. Raphaël Sereni, en charge de l'environnement à la mairie de la ville.
Ce sont des fermes immenses qui élèvent du bétail destiné à l'exportation principalement vers les pays du Moyen-Orient et l'Asie. Imaginez une ferme de 20 000 bêtes, par exemple. Ça génère une quantité excessive de déchets qui contaminent nos cours d'eau. C'est notre grand problème ici.
Sans parler des nombreux accidents. Une fois, un cargo transportant 5 000 bovins s'est échoué sur les rives du fleuve qui traverse la ville. Les carcasses en décomposition ont pollué tout l'environnement. Alors le traité de libre échange entre l'UE et le Mercosur l'inquiète.
S'il s'agit d'un accord visant uniquement à accroître la production, l'Amazonie en subira les conséquences. C'est ici qu'auront lieu toutes les contaminations et tous les dommages environnementaux liés à cette exploitation effrénée des ressources naturelles.
Selon un rapport français, l'accord pourrait entraîner 700 000 hectares de déforestation dans les pays du Mercosur, principalement à cause de l'élevage et de l'agriculture intensive.
Jeanne Richard.
Et des mécontents, il y en a aussi beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe.
Les premiers concernés surtout par ce traité, les agriculteurs. L'accord permettra notamment l'entrée sur le vieux continent de bœuf, de volaille ou encore de soja sud-américain. Et l'opposition de la France ou de la Pologne, pour ne citer que, n'aura rien changé. Les grands gagnants, mais aussi les perdants de cette entente, c'est avec Nathanaël Vitran.
Les grands perdants, même s'il y a des exceptions, ce sont les agriculteurs européens. Ils ont d'ailleurs beaucoup manifesté ces dernières semaines, et ce n'est pas pour rien que les grandes puissances agricoles, la France et la Pologne, étaient à la tête de l'opposition à cet accord. Les éleveurs en particulier craignent la concurrence de la viande bon marché venue du Brésil ou d'Argentine. Ils ont le sentiment d'avoir été sacrifiés pour offrir un nouveau marché aux voitures allemandes. Et c'est vrai que l'Allemagne, dont l'industrie souffre de l'actuelle guerre commerciale entre Washington et Pékin, y voit une alternative bienvenue. De même que l'Espagne et le Portugal, qui pour des raisons historiques ont déjà des liens très forts avec ces pays. Enfin, l'Europe y voit une manière de sécuriser ses approvisionnements, notamment en pétrole et en minéraux. Côté sud-américain, Buenos Aires se réjouit de ces nouvelles perspectives pour le bœuf et le vin argentin, et le Brésil y voit de nouveau débouchés pour son pétrole et son soja. Notons que pour l'heure, les relations commerciales entre les deux blocs sont équilibrées. Le montant des échanges représentant plus ou moins 60 milliards d'euros de part et d'autre.
Nathanaël Vitran et le président du Conseil européen Antonio Costa parlaient hier d'un message fort à l'heure où la Chine pratique une concurrence déloyale et où les États-Unis augmentent leurs droits de douane. Hahn. Sachez enfin qu'après la signature, ce traité de libre-échange devra être ratifié par le Parlement européen.
Autre traité dont on parle ce matin, celui sur la haute mer, il vient d'entrer en vigueur. Dans un quart d'heure, notre invité François Chartier, chargé de campagne océan chez Greenpeace, vient nous en reparler.
De nouvelles menaces de hausse des droits de douane lancées par Donald Trump ce vendredi, il pourrait en appliquer, dit-il, aux pays qui ne soutiendraient pas son plan d'acquisition du Groenland. Hier également, le chef danois du commandant arctique a précisé que les États-Unis avaient été conviés aux exercices militaires des Européens et que ceci avait été imaginé en rapport avec la menace que représente la Russie dans la région. Ce samedi, d'importantes manifestations sont prévues dans plusieurs villes danoises, mais aussi à Nuuk, capitale du Groenland, pour protester contre les ambitions territoriales de Washington.
Donald Trump, qui a par ailleurs remercié Téhéran d'avoir annulé toutes les pendaisons prévues de manifestants.
Cela près de trois semaines après le début du mouvement de contestation largement réprimé dans le sang. Le dernier bilan d'au moins 3400 morts établi par Iran Human Rights n'a pas évolué depuis quelques heures, bien qu'il puisse être largement sous-évalué. La République islamique finira par tomber. Ça, c'est Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, qui le dit en exil depuis les États-Unis. Des envies partagées par de nombreux Iraniens. Guilhem Deltey a pu joindre une militante qui vit en Europe et qui tient tout de même à rester prudente.
Maria Ostovar est une militante pour les droits de l'homme, une féministe. Et lors du mouvement de contestation né fin 2022 après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police, elle a eu beaucoup d'espoir, ce qui l'incite à la prudence aujourd'hui.
J'ai essayé de modérer mes espoirs cette fois-ci, parce que si le changement ne se produit pas, je pense que je ne pourrai pas supporter la déception qui s'ensuivra. C'est ce qui s'est passé il y a trois ans.
Malgré tout, Maria Ostovar pense que l'intensité de la répression actuelle marquera un tournant, accentuera la crise de légitimité du régime de Téhéran.
Beaucoup de personnes autour de moi ont perdu des proches ces derniers jours. Ce n'est donc pas facile à oublier. Actuellement, les gens n'ont aucun espoir d'avenir avec la République islamique.
Elle espère aussi que cette répression conduira la communauté internationale, pays européens en tête, à plus de fermeté vis-à-vis de Téhéran.
Si des gens risquent leur vie pour montrer au monde que ce gouvernement n'est pas légitime, si les gens ne reconnaissent pas ce gouvernement comme légitime, le monde libre ne devrait pas le faire non plus.
Maria Ostova rappelle à la rupture des relations diplomatiques avec la République islamique et demande à l'Europe de classer son bras armé, les gardiens de la révolution, sur la liste des organisations terroristes, mais elle ne souhaite pas d'intervention militaire.
L'ONG spécialisée NetBlocks dit ce matin qu'il y a en Iran une très légère reprise de l'activité Internet, à peine 2% des niveaux habituels de connectivité après plus de 200 heures de coupure.
Près d'un million de candidats à la migration passés par la Libye en 2025.
Oui, soit pour y rester, soit pour y transiter vers d'autres destination, chiffre rapporté par l'Organisation internationale pour les migrations qui détaille dans son rapport l'implantation géographique dans le pays de ces candidats ainsi que leur profil et leur situation, Ouda Ibrahim.
Ce chiffre de 930 000 migrants en Libye englobe les migrants réguliers dont certains ont trouvé du travail souvent précaire ainsi que les migrants irréguliers pour qui la Libye est une voie de passage vers l'Europe. Le migrant se concentre en général dans les grandes agglomérations du pays. 14% sont à Tripoli, la capitale, 11% à Benghazi, deuxième ville du pays, et 10% à Misrata, la capitale économique. Ils sont issus de 44 nationalités, africaines en majorité. En pourcentage, ils sont d'abord soudanais, puis égyptiens, ensuite nigériens et tchadiens. Ces quatre nationalités rassemblées représentent, selon le rapport de l'OIM, 84% de l'ensemble de migrants en Libye. La majorité de ces migrants ont fui leur pays en raison de conflits armés, mais aussi et surtout pour des raisons économiques, indique le rapport. L'OIM déclare par ailleurs que la Libye a intercepté plus de 27 000 migrants en mer Méditerranée en 2025. 16 000 ont accepté le retour volontaire dans leur pays d'origine.
Ouda Ibrahim pour les explications. Donald Trump fait machine arrière sur ses menaces d'invoquer l'Insurrection Act, cette loi spéciale qui pourrait lui permettre de déployer l'armée à Minneapolis. C'est dans l'état du Minnesota où depuis plus d'une semaine est la mort de René Goode abattue par un agent de la police de l'immigration ICE. Des heurts éclatent entre manifestants et forces de l'ordre. Ce matin, une juge fédérale a imposé des restrictions à l'ICE dans le Minnesota, ordonnant à ses agents de ne pas arrêter ou détenir soutenir des manifestants dans leurs véhicules qui ne font pas obstruction à leur action.
La composition du Conseil de la paix pour Gaza est connue.
Donald Trump, on le savait, va le présider et sera aidé par son chef de la diplomatie, Marco Rubio, mais aussi ses émissaires favoris, Steve Witkoff et Jared Kushner, son gendre. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et le président de la Banque mondiale Ajay Banga en font aussi partie.
Un conseil censé superviser le comité palestinien de gouvernance.
Mise en place pour la phase 2 du plan de paix américain pour l'enclave palestinienne, comité composé de 15 technocrates et qui a tenu hier sa première réunion. C'était au Caire où l'on retrouve notre correspondant Alexandre Bouchanti.
Le comité palestinien doit administrer provisoirement Gaza sous le contrôle d'un conseil de paix dirigé par le président américain Donald Trump et entamer la reconstruction de la bande palestinienne ravagée par la guerre. Dans un entretien à une chaîne étatique égyptienne, Ali Chass, le président du comité, a indiqué que les travaux de reconstruction se feront conformément au plan élaboré par l'Égypte et les pays arabo-musulmans. Un plan qui prévoit la reconstruction de Gaza sans déplacement de population hors de la bande palestinienne. Chass, un ingénieur, est en charge des dossiers des transports et de l'énergie indispensables à toute reconstruction. Un ancien fonctionnaire des services de renseignement palestiniens de Cisjordanie se chargera, pour sa part, de la sécurité. Un désarmement du Hamas est prévu par le plan de paix, mais il se fera progressivement et sans violence, a-t-on précisé au Caire. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Et puis une œuvre scénique et politique ancrée dans les préoccupations internationales actuelles. C'est en ce moment à la scène musicale en région parisienne le Requiem allemand de Brahms, mis en scène par David Bobet, orchestré par Laurence Equilbé et un sujet signé Carmen Lunzmann.
Un avion écrasé au sol, un accordéoniste qui déambule dans les débris, une contorsionniste exprimant la douleur et en arrière-plan des images de l'apocalypse et de paysages dévastés d'Ukraine, de Gaza, du Darfour. Ce requiem romantique s'inscrit dans une démarche résolument actuelle portée par la vision de David Bobet et la direction de Laurence Equilbé.
L'idée c'était de faire résonner des œuvres du répertoire politiquement aujourd'hui et la certitude que la musique s'écoute mieux lorsqu'elle se donne à voir comme cet avion métaphore d'une humanité qui va trop vite, trop loin, qui ne peut que finir par la catastrophe. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste entre la brutalité de ce décor, des images de toutes ces guerres, de ces catastrophes écologiques, économiques, de ces populations entières qui se déplacent, et le décalage avec cet appel à la spiritualité qui est dans ce requiem, d'autant plus belle qu'elle est presque laïque.
C'est pas du tout un requiem pour une cérémonie d'enterrement, c'est plutôt une réflexion sur le sens de la vie, de l'au-delà. Et puis surtout, à la fin, un très beau texte de l'Apocalypse qui dit que nos œuvres nous suivent, c'est-à-dire que nos actions sur Terre nous survivent. Et ça, ça donne énormément aussi d'espoir et de sens à notre vie.
Cette méditation sur l'existence humaine prend vie à travers des chanteurs qui deviennent acteurs, capables d'entonner des fugues virtuoses tout en construisant des abris de fortune.
Merci Carmen Lunzmann.
Et merci à vous Nemo en piste pour le journal 7h13 à Paris, place au sport. Avec vous Victor Missistrano, on évoque l'actualité en dehors de la CAN et à la une, le Paris Saint-Germain qui reprend provisoirement les commandes du championnat de France de football.
Après le couac de l'élimination en 16e de finale de la Coupe de France contre le Paris FC, le PSG a repris sa marche en avant hier soir au Parc des Princes, victoire contre Lille, 3-0 grâce à un très grand Ousmane Dembélé, le ballon d'or auteur d'un doublé, une frappe puissante au ras du poteau, puis un chef-d'œuvre, crochet, double contact pour finir par un lob magnifique. Un but de PlayStation quand tu prends tous les boutons en même temps, a commenté son entraîneur Luis Enrique. Dans les arrêts de jeu, Bradley Barcola a alourdi le score. Sévère pour les Lillois qui méritaient mieux selon leur latéral Romain Perrault.
C'est vrai que c'est assez paradoxal parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait un si mauvais match que ça. Dans les intentions, c'était intéressant. Il y a eu de bonnes sorties, il y a eu de bons décalages créés. Mais après, je pense que ça se joue sur l'efficacité. Je crois que ce soir, en face, il y a un grand Ousmane Dembélé qui met deux très jolis buts, qui décante le match. Donc voilà, c'est clair qu'il y a de la frustration et de la déception ce soir. On a une très belle occasion au bout d'une minute de jeu. Si on ouvre le score, je pense que la physionomie peut être différente. Maintenant, voilà, je pense que c'est comme ça, il y a de la déception, mais il faut continuer parce que j'ai vu de belles choses ce soir.
Et au classement,
Paris compte 2 points d'avance sur Lens, qui reprendra les commandes en cas de succès contre Auxerre aujourd'hui. Rien ne va plus pour Monaco. 9e, la SM a concédé hier contre Lorient une 4e défaite consécutive, 3-1.
Contexte compliqué aussi du côté de Madrid, où le Real est en crise.
Xabi Alonso a été écarté après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça. À peine arrivé pour le remplacer, le nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa a essuyé une défaite cinglante en Coupe du Roi face à une équipe de 2e division. Cet après-midi, les Madrilènes vont retrouver le Bernabéu pour recevoir Levante, et Arbeloa espère pouvoir compter sur le soutien du public.
Écoutez, je respecte beaucoup l'opinion du Bernabéu. Je comprends que nos supporters soient blessés et déçus de l'équipe, mais je vais leur demander de soutenir leurs joueurs. En 123 ans d'histoire du Real Madrid, les grands exploits ont toujours eu lieu lorsque le stade était avec les joueurs. Donc j'espère qu'ils seront de notre côté pour que notre saison soit la meilleure possible, comme nous le souhaitons tous.
Real Madrid-Levante, coup d'envoi 13h, temps universel, 30 minutes après le derby de Manchester. United reçoit City, dauphin d'Arsenal. 7e, les Red Devils viennent eux aussi de changer d'entraîneur. La légende du club, Michael Carrick, vient de succéder à Ruben Amorim. L'ancien milieu de terrain a passé 12 ans à Manchester United et va donc vivre un sacré baptême du feu dans ce derby.
Pour moi, c'est une sensation incroyable d'être ici. C'est fantastique, j'ai joué différents rôles dans ce club depuis 20 ans maintenant. Je suis tombé amoureux de Manchester United. Ce club est une grande partie de ma vie. Donc je suis conscient de ma responsabilité et j'ai le désir de réussir. On a un gros travail devant nous pour gagner des matchs et bien jouer. D'un côté, c'est cool, mais de l'autre, il va falloir rester concentré pour faire progresser l'équipe et avoir des résultats.
Coup d'envoi de ce derby de Manchester à 12h30, temps universel. Match important pour United et City. Marion, deux équipes qui viennent d'enchaîner 3 matchs nuls consécutifs en Première Ligue.
Et vous revenez dans une demi-heure, Victor, pour reparler cette fois de la Coupe d'Afrique des Nations.
RFI Matin.
En Birmanie, la junte, arrivée au pouvoir en février 2021, organise ce mois-ci de premières élections en 5 ans. Élections législatives en 3 phases. La dernière aura lieu la semaine prochaine. Un scrutin très critiqué à l'international, qualifié de manœuvre pour assurer la survie du régime militaire. Le régime qui a écrasé peu à peu toute liberté de la presse. 7 journalistes ont été exécutés, des dizaines d'autres emprisonnés. Notre envoyé spécial Nicolas Roca a pu se rendre dans le pays et a rencontré une proche d'un photojournaliste qui a été condamné à 20 ans de prison pour avoir exercé son métier. Nous avons modifié sa voix pour des raisons de sécurité.
Dans les rues en apparence paisible de Rangoon, Suzy, un nom d'emprunt, est à l'affût. En rentrant discrètement dans notre voiture, elle regarde derrière elle. Pour la jeune femme, parler de son cousin, Seizantau, est un danger. Nous nous rendons dans la salle fermée d'un restaurant.
En mai 2023, lorsqu'un cyclone a frappé la Birmanie, il s'est rendu de Rangoon à Sitwe, dans l'état de l'Arakan, pour couvrir l'événement et documenter les dégâts sur place. Quelques jours après son arrivée, le 23 mai exactement, il a été arrêté à Sitwe, puis ils l'ont renvoyé à Rangoon.
Elle dénonce un simulacre de justice.
Il n'y a pas eu d'enquête ni d'interrogatoire. On ne l'a même pas autorisé à engager un avocat. Il a juste été emprisonné, puis envoyé au tribunal militaire qui a rendu sa sentence immédiatement.
20 ans de prison pour avoir semé la peur, diffusé de fausses informations et travaillé pour un média interdit, Myanmar Now. En 2021, la junte a fait une descente au siège du média avant de révoquer son autorisation. La plupart de ses journalistes sont en exil. Seizantau a voulu rester. Désormais, il subit l'enfer dans les geôles du régime.
Étant donné qu'il est un prisonnier politique, il subit des mauvais traitements quotidiens. On va les forcer, par exemple, à transporter les seaux d'excréments humains. Il subit des violences corporelles, tout le temps. En mars dernier, après une inspection de la Commission des droits de l'homme, ils ont utilisé ce prétexte pour le torturer, car il n'avait pas donné de bonnes réponses, selon eux. Sûrement parce qu'il avait dit la vérité sur les conditions de vie dans la prison, sur les violations de droits qu'il subissait. On l'a forcé à dormir sur le béton nu, sans rien, sans moustiquaire.
Sa mère peut continuer à lui rendre visite, mais elle ne peut le voir. Alors, à chaque amnistie de prisonnier, elle se rend à la prison d'Insein, un immense complexe carcéral du nord de Rangoon, où il est détenu Début janvier, 6000 personnes ont été libérées, mais pas lui.
À chaque fois que le gouvernement annonce des amnisties de prisonniers, je vais attendre devant la prison. Mais tout ce que je vois, c'est ce mur massif, silencieux et froid qui nous sépare, et c'est juste déchirant. J'imagine à chaque fois qu'il ressent la même chose. J'espère juste que le jour de sa libération arrivera bientôt. Mais même quand la junte décide de libérer certains prisonniers pour se donner une bonne image, il le laisse toujours de côté.
Nicolas Roca, de retour de Rangoon, RFI.
La chronique menace sur l'information, à réécouter sur notre site rfi.fr. Il est 7h20 à Paris. Une étape cruciale vient d'être franchie pour la protection de l'océan. Le traité sur la haute mer entre en vigueur aujourd'hui. Il s'agit d'un cadre juridique pour mieux la sauvegarder. Et c'est une première donc pour la haute mer, ces eaux internationales qui n'appartiennent à personne et qui couvrent plus de 60% des océans. Bonjour François Chartier.
Bonjour.
Vous êtes chargé de campagne océan chez Greenpeace. Merci d'accepter notre invitation ce matin sur RFI. L'entrée en vigueur de ce traité sur la haute mer, François Chartier, c'est une bonne nouvelle ?
C'est une très bonne nouvelle. C'est 20 ans de négociations qui ont été très dures, très laborieuses. Et c'est une très bonne nouvelle pour pouvoir enfin protéger la haute mer, puisqu'il y avait un peu un trou dans l'organisation du droit international et qui ne permettait pas de protéger la biodiversité.
Alors qu'est-ce qui fait que cet écosystème, la haute mer, est si important ? Qu'est-ce qu'on trouve de si précieux dans ces eaux internationales ?
Alors ce qu'il faut voir, c'est que globalement les océans ne vont pas bien, la biodiversité est en baisse, les populations de poissons sont en déclin, et puis il y a tout l'enjeu d'avoir des océans sains et résilients pour contribuer à lutter contre le changement climatique. Et la haute mer, c'est la moitié de notre planète, et pour l'instant on ne pouvait pas la protéger, on ne pouvait pas notamment mettre en place des aires marines protégées, qui est un véritable outil de conservation et de restauration de la biodiversité marine.
Alors justement, pourquoi c'est si crucial ? Vous parlez de la création de ces aires marines protégées, c'est l'une des principales mesures de ce traité. Qu'est-ce qui est si important, qu'est-ce qui va changer en créant ces aires marines ?
Alors la communauté internationale et la France également s'est engagée à protéger 30% des océans d'ici 2030 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Et pour la communauté scientifique, c'est un des outils clés qui va permettre d'enrayer, en tout cas de contribuer à enrayer le déclin de la biodiversité et finalement de limiter les impacts des activités les plus destructrices que l'on peut trouver en mer. C'est un outil extrêmement efficace quand il est bien géré et quand les niveaux de protection sont élevés, c'est-à-dire quand on réduit les activités humaines, voire quand on les exclut de ces aires marines protégées. Et en fait, jusqu'à présent, ça pouvait être mis en place dans le cadre des eaux territoriales de pays, mais pas en haute mer, puisqu'on est dans un espace qui est un bien commun pour l'ensemble de l'humanité et qui est régi par le droit international.
Alors justement, vous parlez de ces activités destructrices en mer qui affaiblissent la biodiversité, donc j'imagine la surpêche notamment, et dans un espace aussi vaste, comment être sûr que ce traité sera respecté ? Repérer un bateau de pêche dans une si grande zone, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin ?
C'est tout l'enjeu aussi de la réalité d'ambition qui va être mise en place par les États qui ont signé et ratifié ce traité, et c'est ce qu'on va voir lors des premières COP, donc la première COP des océans, on l'espère, cette année. C'est-à-dire qu'il va falloir des moyens financiers, des moyens techniques, des moyens de contrôle en mer, mais aussi à distance, pour que si on met en place des aires marines protégées, ce ne soient pas des aires marines protégées de papier, mais qu'elles protègent vraiment. Mais la première étape, c'est de se donner des critères en termes de qu'est-ce qui est autorisé dans l'aire marine protégée ou pas. Avant de contrôler, il faut déjà encadrer, il faut déjà décider des bonnes mesures de protection et notamment d'exclure des aires marines protégées la pêche industrielle.
Alors on a bien compris sur la création de ces aires marines protégées, donc l'un des principaux, une principale mesure de ce traité. Il est aussi question, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce traité ? Il est aussi question d'un système pour que les pays se partagent les bénéfices des ressources marines génétiques. Ça veut dire quoi ?
Alors, potentiellement, dans les océans et en particulier dans les grands fonds, il y a des ressources génétiques qui pourraient être utilisées pour la médecine. C'est déjà un peu le cas. Ou pour l'industrie du cosmétique, par exemple. Or, l'enjeu, et c'est un des éléments clés de la négociation, c'est que le bénéfice de ces ressources, donc, qui sont trouvées dans un espace qui est au profit de l'ensemble de l'humanité, qui est un bien commun de l'humanité, ne soit pas privatisé et accaparé, notamment par des multinationales des États occidentaux. Donc il y a eu un grand travail de plaidoyer des pays du Sud pour qu'il y ait un mécanisme de partage des bénéfices de ces ressources à ceux qui ne les exploitent pas.
Alors vous l'évoquiez, ça fait 20 ans que ce traité est sur les rails, qu'il est en discussion. Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps justement pour qu'il soit ratifié, pour qu'il entre en vigueur ?
Alors il a déjà fallu négocier pendant 10 ans le fait d'ouvrir des négociations. En fait, les pré-négociations ont déjà été très longues, simplement pour se mettre d'accord qu'on allait négocier un traité. Donc ça montre bien aussi l'inertie de ce genre de négociations, de traité international sous l'égide des Nations Unies. Après, dans un premier temps, il y avait beaucoup de pays, notamment les pays pro-pêche ou acteurs de la pêche industrielle, qui voulaient minimiser l'ambition de ce traité. Et il y a eu une pression d'un certain nombre de pays plus proches des objectifs de conservation. Nous, la société civile et les ONG comme Greenpeace, on a été très impliqués en tant qu'observateurs et on voulait un accord global. Ces négociations ont été très longues et progressivement, finalement, le camp des pays qui soutenaient l'ambition a pris de la consistance. La France a mis un peu de temps, mais a fini par finalement soutenir un traité ambitieux et a été assez moteur dans cette diplomatie pour une fois.
Il est assez ambitieux pour vous ?
Et on arrive à quelque chose d'assez... Oui, on arrive à quelque chose d'assez bien maintenant. L'objet juridique, il va permettre, ou il pourra permettre, par exemple, de protéger la haute mer ou de mieux partager les ressources ou de mettre en place des études d'impact, ce qui est également très important. Ça va dépendre après, maintenant, du portage politique. On voit des pays, je pense, en l'occurrence la France, qui a défendu un traité ambitieux, comme elle défend par exemple l'interdiction de l'exploitation minière en haute mer, ce qui est également un enjeu important, et qui en revanche continue à défendre les intérêts de sa pêche industrielle. Donc il faut sortir de ces contradictions, il faut un portage politique, c'est finalement qu'est-ce qu'on va faire de ce traité qui est important maintenant.
Alors il y a d'importants pays qui ont signé ce traité, d'importantes puissances comme la Chine, c'est un peu une surprise, elle l'a signé un peu à la dernière minute. Au contraire, il y en a d'autres, il y a des grands absents comme les États-Unis. Est-ce que c'est problématique ? Est-ce que les non-signataires pourront contourner ce traité ?
Alors oui, c'est problématique dans un contexte également où le multilatéralisme est fortement attaqué. Alors les États-Unis n'ont pas signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en fait tout le cadre juridique de la mer, et donc ils ne pouvaient pas signer ce traité qui en est finalement un chapitre complémentaire. Mais en revanche, c'est extrêmement important et c'est une très bonne nouvelle que la Chine ait signé. Il faut maintenant que d'autres grands pays signent le traité, pas pour qu'il entre en vigueur, hein, c'est le cas, ça y est, c'est fait aujourd'hui, mais pour que sa portée politique augmente. Le risque avec les États-Unis, on le voit aujourd'hui, les États-Unis menacent d'aller démarrer une exploitation minière en haute mer en sortant complètement du cadre international, de ce cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc là, il y a besoin effectivement d'une mobilisation des grands États, de la France, de la Chine, du Brésil, pour rappeler l'importance du cadre du multilatéralisme, qui est le seul moyen pour un espace qui est la haute mer, qui est un espace qui, encore une fois, appartient à l'ensemble de l'humanité, pour avoir une gouvernance fonctionnelle.
Alors Donald Trump, vous l'avez rappelé, a donc signé un décret pour autoriser l'exploitation minière des fonds marins dans les eaux internationales. Les pôles, l'Arctique et l'Antarctique, aiguisent aussi les appétits géopolitiques. On parle surtout beaucoup en ce moment des menaces d'annexion du Groenland par Donald Trump. Niveau environnemental, je change un peu de sujet, François Chartier, est-ce que vous craignez une catastrophe en Arctique ?
Le risque avec l'accélération du changement climatique, c'est effectivement d'ouvrir des nouvelles zones de pêche, d'ouvrir des nouvelles zones d'exploitation de minerais, d'ouvrir des nouvelles zones d'exploitation pétrolière, alors que selon les recommandations du GIEC, il ne faut plus ouvrir un seul nouveau puits, si on veut être dans les clous pour l'accord de Paris. Donc c'est effectivement une menace, d'où l'importance, et on le voit pour l'Arctique, on le voit pour l'Antarctique, on le voit pour la haute mer, de renforcer le multilatéralisme, de renforcer le cadre des négociations internationales, et que ce soit la collectivité internationale qui décide et qui intègre les objectifs de protection, de lutte contre le changement climatique, de protection contre la biodiversité. Donc c'est extrêmement important finalement que l'on s'appuie en particulier sur ce traité pour envisager le futur de nos océans.
Et ce traité donc sur la haute mer qui entre en vigueur aujourd'hui. Merci François Chartier, chargé de campagne océan chez Greenpeace France. Un entretien que vous pourrez réécouter sur notre site rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. Vous restez avec nous, on se retrouve dans une minute pour le retour de l'actualité africaine.
L'atelier des médias, Steven Jambeau. Mark Zuckerberg de Meta, Sam Altman d'OpenAI ou encore Pavel Durov de Telegram, le journaliste français Guillaume Grallet a rencontré en chair et en os la plupart des figures de la tech mondiale. Son idée, que l'on connaisse un peu mieux ces dirigeants qui ont tant d'impact sur nos vies. Guillaume Grallet est mon invité dimanche à 11h10 temps universel sur RFI dans l'atelier des médias.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Ce lundi, au lendemain de la finale de la CAN Sénégal-Maroc, nous dresserons le bilan de cette édition. Le tournoi a-t-il tenu ses promesses? Qu'avez-vous pensé du parcours de votre sélection? Des polémiques autour de l'arbitrage? Quelles ont été vos joies et vos déceptions? Appelez-nous.